grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Selon une enquête de l'IFOP, la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans a déjà consulté un site pornographique, des sites gratuits et facilement accessibles, disponibles de façon illimitée sur les smartphones ou sur les ordinateurs portables. Une consommation de plus en plus précoce, jugée prématurée par la grande majorité des intéressés. Mais pourquoi la pornographie est-elle devenue aussi prégnante chez les adolescents? Quel rôle jouent ces images dans leur éducation sexuelle? Quel est l'impact de ces mises en scène pornographiques dans l'apprentissage de leur sexualité? Comment leur parler de sexualité loin de la vision stéréotypée propagée par les sites classés X? Pour vous répondre ce matin, Isabelle Filiosa et Margot Fried Filiosa, le psychologue Samuel Comblé et la sociologue Yael Amselem Mengi. Et vous, comment parlez-vous de sexualité à vos enfants ou petits-enfants à l'ère de la pornographie en ligne? Et si vous êtes adolescent, dites-nous quel est l'impact de ces images sur votre représentation du sexe. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, une émission en partenariat avec la soirée continue sur France 2 ce soir. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vers 11h25, vous nous proposerez votre ordonnance philosophique.
Oui, avec ce matin un traitement pour essayer de muscler le désir contre les effets de la pornographie.
A tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Le premier film porno, je l'ai vu à 12 ans. J'ai découvert comme ça, sur un site internet. J'ai regardé une vidéo et après, ça n'a plus et j'en ai regardé une autre.
La première fois que je suis tombé sur des images porno, c'était mon frère, j'avais 7 ans et demi. Et il avait ces images sur son téléphone. Et lui, il était au collège en 6e. Bon, il m'a montré, j'ai pleuré. Après, je me suis enfermé dans les toilettes. Ça me dégoûtait. Je me disais, ah, c'est pas possible. Mes parents, ils ont pas pu faire ça, tu vois.
Je me rappelle la première fois que j'ai vu des images pornographiques, c'était en 6e. Et c'était assez choquant.
La première fois que j'ai été voir de la pornographie, j'avais 10 ans. Et c'était sur l'ordinateur de mes parents. Et je suis tombé sur les pires horreurs, quoi. Il y a eu un mélange de choc, mais aussi d'excitation, en fait.
Un extrait de l'excellent documentaire « Pornographie, un jeu d'enfant » diffusé ce soir à 22h45 dans le cadre de la soirée continue sur France 2, présentée par Julien Bugier. Bonjour Isabelle Filiosa.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute. Bonjour Margot Fried Filiosa.
Bonjour.
Vous êtes coach en relations intimes et sexuelles et vous publiez ensemble chez Robert Laffont « S'expérience, les réponses aux questions des ados ». Bonjour Samuel Comblé.
Bonjour.
Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Vous êtes directeur des opérations de l'association e-enfance et vous êtes l'auteur chez Solar de la sexualité de vos ados. En parler, ce n'est pas si compliqué. Bonjour Yael Amselem Mengi, vous êtes sociologue, chercheuse à l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Une première Bonjour. Réaction peut-être à cet extrait qu'on vient d'entendre, Samuel Comblé.
Bah, ce que j'ai retenu de ces différents témoignages, c'est que l'ensemble des adolescents disent qu'ils ont commencé tôt. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on remarque de plus en plus, c'est la précocité d'accès à ces images pornographiques qui posent vraiment question. Les différents témoins parlent de dégoût, de choc. Et c'est là où il faut, je pense, protéger les enfants parce que l'accès à la pornographie leur est interdit. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus facile au travers des téléphones portables. On a accès à Internet de plus en plus précocement et on peut naviguer sans aucun contrôle parental sur ces sites et ça pose question.
Isabelle Filiosa.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enfants sont exposés sans avoir forcément cherché à aller regarder sur ces sites. Et puis après, le cerveau se fait complice des sites pornographiques parce qu'ils le disent. Au début, je suis choquée.
J'ai pleuré.
J'ai du dégoût, j'ai pleuré. Donc il y a une réaction très forte, mais en même temps, il y a cette excitation qui est automatique. C'est-à-dire que c'est important de mesurer que l'excitation, c'est un processus physique. Le désir est un processus physique qui ne se contrôle pas. Et donc, ils sentent tout ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont du coup besoin de re-regarder pour arriver à digérer l'information, à calmer le jeu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et du coup, le fait de s'habituer à regarder, petit à petit, ils y prennent plaisir. Et donc, quelque chose qui était dégoûtant devient peut-être une source de plaisir. C'est comme ça, c'est le processus de l'addiction.
Exactement. Ce que je remarque aussi souvent quand les enfants témoignent, c'est qu'ils sont piégés en fait par ces images pornographiques parce que souvent ils y ont accès par hasard, comme le disent vos témoins. Aujourd'hui, Internet, c'est 25% des contenus sur Internet, c'est de la pornographie. Même sans en chercher, de toute façon, les enfants vont y être confrontés. Le souci, c'est qu'ils sentent bien qu'il y a une gêne, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ils n'auraient pas dû avoir accès à ces images et ils n'en parlent pas aux parents parce qu'ils sont gênés, ils ont peur de choquer leurs parents, voire d'être privés de connexion Internet, ce qui est quand même une punition extrême pour les enfants. Et du coup, ils ne peuvent en parler à personne et ils se retrouvent enfermés avec ces images sans possibilité d'évacuer le choc que ça a pu créer.
Margot Fried-Filiosa.
Tout à fait. Et du coup, moi, ce que je vois, je vais beaucoup dans les collèges et lycées pour faire des interventions d'éducation sexuelle et affective. Et j'ai en face de moi des enfants qui me disent « J'ai peur, je suis amoureux, mais j'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire. Je ne suis pas prêt à faire l'amour parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. » Et c'est ça qui est terrifiant, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un côté de l'intimité, vraiment d'être intime qui a déserté le terrain de la sexualité. On pense qu'il faut faire comme dans le porno. Parce qu'on ne se rend pas compte des trucages, on ne se rend pas compte de tout ça.
Yael Amselem Mengi, première réaction à cet extrait de documentaire que nous avons entendu.
Je trouve que c'est très intéressant la diversité des témoignages des jeunes. Allô ?
Oui, on vous entend.
Ouais. Parce que notamment, ça met en avant plein de choses, notamment parce que vous avez interrogé des filles et des garçons, et on sait bien que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les filles et pour les garçons, notamment en lien avec l'entrée dans la sexualité, la masturbation qui est possible pour les garçons et qui va du coup être liée aux usages pornographiques, tandis que pour les filles, la légitimité de la masturbation pour les filles, elle n'est pas encore vraiment passée dans les mœurs en France. On voit aussi que ils évoquent le contexte avec qui ils étaient, quand est-ce que c'était, à quel âge ils avaient, et puis si cette exposition elle était volontaire ou involontaire. Et c'est quand même pas la même chose quand on cherche du contenu sexuel ou quand on se retrouve malgré soi devant une image à caractère sexuel. Ce que montre l'enquête, une enquête qu'on a faite avec Arthur Vuattoux en sociologie, c'est sur la précocité d'accès. C'est la définition de la pornographie qui est quand même pas forcément la même pour les jeunes et pour les adultes. Et ça, je pense que c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération.
Alors la masturbation, elle existe chez les filles et les garçons, même très précocement. C'est vrai que c'est parfois tabou de le dire comme ça, parce que ça peut être choquant pour un adulte d'imaginer que des enfants puissent se masturber. Or, la masturbation existe. Et c'est vrai que les enfants vont souvent chercher à accéder à la pornographie parce que ils ont besoin de réponses à leurs questions. La sexualité, elle s'affiche aujourd'hui partout. Les enfants ont besoin d'avoir réponse à leurs questions. Comme les adultes sont parfois gênés, les enfants se tournent vers une source gratuite et c'est Internet.
Mais qu'est-ce qui a changé au fond? La pornographie ne date pas d'aujourd'hui, non. Au 19e siècle apparaissent les premières images pornographiques. Au cours du 20e siècle, on peut se procurer des journaux pornographiques. Les cinémas porno ont pignon sur rue jusqu'en 1975. Et ensuite, il y a eu le classement X des films réservés aux adultes avec des salles spécialisées. Et puis dans les années 1980, on assiste au succès des cassettes vidéo porno et à l'apparition du premier film X diffusé en crypté le premier samedi du mois sur Canal+, dès 1984. Qu'est-ce qui change par rapport à cette époque où nos sociétés ont connu de la pornographie et aujourd'hui ?
Tout ce qui change d'abord, je pense qu'il faudrait parler des pornographies parce qu'aujourd'hui il n'y a pas la pornographie, il y a toutes sortes de thématiques, d'images pornographiques qui sont parfois extrêmement choquantes. Et puis il y a une banalisation tout simplement de ces images, il y a un accès beaucoup plus facile. Aujourd'hui Internet est dans la main de tous les adolescents et donc il n'y a plus de contrôle. Quand vous parliez des cinémas, il y avait un contrôle de l'âge au moins et donc on pouvait filtrer les personnes qui avaient accès à ces images. Aujourd'hui n'importe qui peut y avoir accès et c'est là où ça change tout.
Isabelle Figueza.
Et puis avant, c'était des acteurs et il y avait une protection des acteurs.
C'était un genre cinématographique. Dans les années 70, le cinéma pornographique était un genre, c'est-à-dire qu'il y avait des scénarios, des semblants de scénarios avec un début, un milieu, une fin, des acteurs identifiés. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus exactement la même chose dans les films accessibles sur les sites pornographiques
en ligne. Vous avez dit le mot, des acteurs identifiés. On savait, on connaissait, il y a une actrice porno, etc. Aujourd'hui, c'est complètement différent et il n'y a plus... les acteurs sont sous-payés, ne sont plus du tout protégés. Elles se retrouvent très souvent à l'hôpital. 95% des contenus qui sont regardés sont des contenus piratés, c'est-à-dire sur les plateformes gratuites, c'est gratuit, mais parce que ils piratent les contenus. Et puis, il y a un autre problème qui émerge, c'est que la pornographie d'aujourd'hui n'a plus pour fonction de susciter l'excitation et de permettre, ne répond plus finalement.
Disons que la dimension érotique n'existe plus.
C'est ça, parce que l'objectif, il est de choquer. L'objectif, les plateformes porno ne vendent pas réellement du porno, ils vendent des vues, des nombres de vues, du trafic. Et c'est plus ils ont du trafic sur leur plateforme, plus ils gagnent d'argent. Donc leur objectif, c'est de faire de la compétition entre plateformes pour être celui qui va obtenir le plus de vues.
Mais vous,
il faut choquer de plus en plus.
Exactement, vous le dites bien dans votre livre Sexpérience, c'est qu'il y a une habituation hédonique. C'est-à-dire qu'on a du plaisir jusqu'à un certain point. À un moment donné, ce désir s'épuise. Thibaut de Saint-Maurice y reviendra tout à l'heure dans sa chronique. Donc on a besoin, en tout cas, nos cerveaux ont besoin de shoot de plus en plus dur pour accrocher notre cerveau.
C'est ça, en fait, c'est pas vraiment que notre cerveau en a besoin, mais les plateformes utilisent cette caractéristique de notre cerveau pour choper notre attention. Mais c'est vrai, pour pouvoir être attiré et pour rester sur une image, eh bien, il faut être sans arrêt choqué. Donc c'est pour ça que les images sont de plus en plus choquantes, de plus en plus dramatiques, de plus en plus violentes.
Puis il y a aussi le fait qu'il y a 20 ans, les images n'étaient pas autant modifiées. Aujourd'hui, il y a énormément de chirurgie esthétique, d'injections de produits, que ça soit de la lidocaïne, pour permettre des pratiques qui autrement ne seraient juste humainement pas supportables. Et donc, ce sont des choses qu'on ne voyait pas dans du porno il y a 20 ans, mais il y a aujourd'hui, il y a vraiment...
Il y a même 30 ans.
Exactement.
Ça va le combler.
Ce qui est préoccupant aussi quand on fait témoigner les adolescents, c'est la façon dont ils s'inspirent de ce qu'ils voient sur les images pornographiques. Moi, je suis très étonné quand les adolescents me disent, par exemple, qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait parler pendant un rapport sexuel, parce que dans les images pornographiques, c'est pas forcément évident. On n'est pas obligé de faire crier son ou sa partenaire pour montrer qu'on a donné du plaisir. Et ça, c'est pas des choses évidentes.
Ou alors, ce sont des dialogues stéréotypés qu'on reproduit dans la réalité.
Exactement. Et le problème de la pornographie, c'est qu'aujourd'hui, ça sert de guide mode d'emploi pour les adolescents. On le disait tout à l'heure, effectivement, les adolescents peuvent être très complexés, d'abord de voir des corps qui ne ressemblent pas du tout aux leurs, et puis d'avoir des pratiques sexuelles qui ne leur ressemblent pas, parce que c'est très inaccessible pour eux.
On y reviendra tout à l'heure. Allez, n'hésitez pas à intervenir ce matin au 01 45 24 7000, émission spéciale en partenariat avec France 2. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisé par Stéphanie Texier.
We are.
Voilà un titre qui vous fait plaisir, Thibaut de Saint-Maurice.
Tout mon lycée, en trois minutes.
Jamiroquai, Virtual Insanity.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h22, comment parler de sexualité aux ados à l'ère de la pornographie en ligne, une émission en partenariat avec France 2. Avec nous Isabelle Filioza et Margot Fritz Filioza qui publie Sexpérience, Samuel Comblé qui publie La sexualité de vos ados. Avec nous également au téléphone Yael Amselem Mengi, vous êtes sociologue à l'INJEP. Vous vouliez réagir au propos juste avant le disque?
Oui, parce que je pense qu'il y a une petite phrase qui est passée un peu vite, mais qui était intéressante de dire, il y a plusieurs formes de pornographie. Effectivement, autant il y a plusieurs jeunes, et on peut pas homogénéiser en parlant tout le temps des jeunes, on peut pas parler de la pornographie. Il y a des contenus à caractère pornographique. L'idée même de film pornographique, elle est un peu vieille parce qu'il n'y a pas que des films, il y a des photos, il y a des dessins animés, enfin il y a plein de choses, des films d'animation. Et justement, c'est ça qui est intéressant, quand nous on a fait une enquête sur les usages sexuels d'Internet, où on voit bien qu'il y a des continuités entre les pratiques culturelles et les usages de la pornographie, notamment la recherche de manga porno, dans la pratique du hentai par exemple, qui sont bien qu'on retrouve chez ceux qui, et chez celles, qui vont être intéressés par la lecture de manga, et on voit bien qu'il y a une continuité dans ces recherches-là. Pareil, on voit que certains jeunes, avec l'expérience sexuelle qui va commencer, avec l'entrée dans l'âge adulte et tout ça, vont se tourner vers des films pornographiques ou vers de la pornographie, des contenus pornographiques qui vont être davantage sélectionnés, davantage militants, qui vont aussi prôner l'égalité des sexes et pas être que dans la violence. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait la diversité qu'offre que mobilise la jeunesse pour accéder aussi, oui, à du plaisir érotique, à la découverte de la sexualité, mais pas seulement, et donc va tomber dans les premiers temps sur la première page d'accueil quand c'est une recherche sur les principaux moteurs de recherche, mais après, avec l'expérience sexuelle, ils vont aller affiner leur choix. Et ils vont pas forcément prendre en première ligne tout le temps la première occurrence, la plus violente, la plus trash, la plus loin de ce qu'ils cherchent.
Ça met le comblé.
Et nous, on a quand même beaucoup de jeunes qui vont fermer le film ou le contenu quand ça ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, érotisation des rapports sexuels, comme scénario, comme mise en scène, comme partenaire, comme...
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a effectivement une crudité très très importante dans les thématiques. Les adolescents, par exemple, peuvent avoir accès à des images zoophiles, à des images qui font la promotion de l'inceste, à des rapports sexuels avec des femmes amputées, avec des femmes enceintes, à des rapports scatophiles. Donc c'est quand même des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un passage obligé dans l'éducation des enfants qui est de pouvoir sensibiliser les enfants avant qu'ils aient accès à ces images. Et malheureusement, ils y ont accès de plus en plus tôt. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui parler dès l'école primaire de l'accès à ces images pour protéger tout simplement les enfants et leur dire, si un jour tu as accès à ça sans que tu l'aies cherché, eh bien viens me chercher pour que je puisse t'expliquer comment fermer la fenêtre à laquelle tu as eu accès.
Margot Fritz Filioza.
Tout à fait, je suis d'accord avec ça. On a besoin d'en parler et de plus en plus tôt. Et souvent, en tant que parent ou même professeur, on n'ose pas, ça met mal à l'aise. Sauf qu'on a besoin de mesurer que si ça nous met mal à l'aise, eux, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Même s'ils ont 13 ans, ils sont jeunes. Et on ne peut pas se permettre de les laisser seuls face à ces images. Parce que ces images, elles font peur. Elles causent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de changements sur leur représentation. Et moi, je pense que vraiment, même si ça nous met mal à l'aise, on a besoin, ne serait-ce que de leur donner un livre, de leur en parler, de confronter ça, parce qu'on ne peut pas se permettre.
Bonjour François Cros.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur des études à l'IFOP et avec l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, vous avez publié une étude sur la consommation de pornographie chez les adolescents et son influence sur les comportements sexuels. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1005 personnes, représentatif de la population âgée de 15 à 17 ans, résidant en France métropolitaine. Quel est le principal enseignement de cette enquête, François Cros?
C'est que sous l'explosion du taux d'équipement des ados en smartphone, qui aujourd'hui sont équipés pour la quasi-totalité d'entre eux, on a une dématérialisation croissante de l'accès aux films pour adultes, qui était beaucoup plus compliqué encore dans les années 80 à l'époque des vidéoclubs, et qui favorise naturellement un accès plus aisé, plus discret et bon marché à ce type de contenu. Et donc cette dématérialisation elle se traduit naturellement par une plus grande intégration dès le plus jeune âge de pratiques associées à l'univers du X, le contenu des rapports sexuels apparaissant de plus en plus influencé par les codes de la pornographie.
Alors, d'après votre enquête, ce sont surtout les garçons qui visionnent des vidéos avec des pratiques différentes selon que l'on soit un garçon ou une fille.
Alors, oui, globalement, vous disiez tout à l'heure que la moitié des... Allô ?
Oui, on vous entend.
La moitié des ados dans notre enquête de 2017 avaient déjà fréquenté un site X. Ils étaient à peine un tiers quelques années auparavant, donc ça progresse fortement, mais ça reste encore une fréquentation très genrée, dans la mesure où vous avez à peu près les deux tiers des garçons et seulement un tiers des filles qui l'ont déjà fait. Mais il y a des écarts entre les sexes qui s'estompent fortement. Après, on a aussi des pratiques différenciées, puisque la première fois qu'on consomme, c'est souvent chez les garçons une expérience solitaire associée à une activité masturbatoire, et chez les filles, c'est plus quelque chose qu'on fait en groupe dans une logique un petit peu d'initiation aussi, sur un ton plus de rigolade ou pour décomplexer un peu ce type d'usage.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que heureusement, je dirais, les ados regardent du porno en groupe et ça permet du coup d'en parler tout simplement, de se rassurer, d'échanger ce qu'ils ont pu voir. Et heureusement qu'ils ne sont pas seuls et que cette expérience se vit en groupe.
Isabelle Filosa.
En même temps, du coup, il y a aussi la pression sociale parce que ces images impressionnent le cerveau, impressionnent vraiment dans tous les sens du terme, émotionnellement et un peu comme une impression photographique. Et donc, ça donne comme un modèle, une norme. Et il risque d'y avoir la pression sociale, la pression des autres. Je dois le faire, je dois le faire comme ci, comme ça. Et puis, il y a les tournantes en groupe, il y a dans les toilettes, les pipes que la fille doit faire parce que ça se fait et tout son groupe, etc. Et ça augmente aussi.
François Cros, dans votre enquête, il y a une chose très intéressante, c'est que beaucoup d'adolescents interrogés vous ont dit que la pornographie avait joué un rôle dans l'apprentissage de leur sexualité.
Oui, c'est sûr qu'avec cet accès beaucoup plus aisé et bon marché à la pornographie, celle-ci constitue pour les deux sexes, hein, pas que pour les hommes, une source d'apprentissage, une source de socialisation sexuelle, où on apprend on intègre des pratiques sexuelles et des techniques du corps qui favorisent l'intégration des codes et scénographies de la pornographie dans le répertoire sexuel des ados. On a vu dans une précédente enquête qui s'appelait Génération YouPorn Mythoralité qu'on avait une intégration notamment de pratiques issues, hein, très étroitement associées à la culture porn, comme l'éjaculation faciale, la bifle, ou plus largement des pratiques comme des pratiques anales ou buccales qui ont plus que doublé en 20 ans.
N'oublions pas que nous sommes mercredi et que des enfants nous écoutent. Yael Amselem Mengi, la pornographie peut jouer un rôle d'éducation sexuelle, partiellement en tout cas.
La pornographie, c'est une ressource parmi d'autres. Je pense qu'on ne peut pas faire comme si les jeunes ils avaient accès que à la pornographie et que la pornographie, c'était... entre guillemets, la cause de tous les vices de la société. Enfin, c'est une question qui se pose beaucoup en France, l'accès des jeunes à la pornographie. Or, dans plein d'autres pays européens, il y a le même accès à Internet et cette question-là, elle n'arrive pas de la même manière. On voit bien qu'il y a une panique morale en France qui s'exerce sur la pornographie et qu'il n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays européens. Les jeunes, ils ont accès à la pornographie, ils n'ont pas que accès à la pornographie. Ça fait partie des sources et des ressources. Ça fait partie des supports visuels, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que quand même, quand on interroge les jeunes et quand on les voit en séance d'éducation à la sexualité, en milieu scolaire, quand on discute avec eux, quand on fait des enquêtes, quand on les interroge statistiquement ou qualitativement en sociologie, on observe bien que la place des copains, des copines reste très forte sur les premières discussions, sur les premières, enfin sur la transmission des normes en matière de sexualité, et y compris sur les pratiques à faire, à ne pas faire, les pratiques qui sont valorisées par les autres et tout ça. On voit bien que la place de l'école reste forte à condition qu'il y ait aussi des séances d'éducation à la sexualité. Or, on sait que pour l'instant, tous les établissements les mettent pas en place. Mais la pornographie, ça fait partie du spectre des sources et des ressources disponibles.
Margot
mais
Fried,
ce n'est
si
pas
déjà
l'unique source et ressource disponible pour les jeunes. Et elle n'est pas uniquement, exclusivement destinée aux jeunes. On sait qu'aussi, il y a beaucoup d'adultes qui vont voir des films pornographiques et on s'interroge très peu sur les conséquences éventuelles des usages pornographiques par les adultes.
C'est sûr,
nous, on a des jeunes qui, comme ça,
il faut quand même
beaucoup l'internet, enfin l'internet familial avec un ordinateur, et comme ça on a des jeunes qui eux maîtrisent bien la protection et la navigation privée, se sont retrouvés avec dans l'historique une page utilisée par un de leurs parents a priori qui n'était pas la leur, où ils ont bien rigolé en disant, et en même temps hyper gênés de se dire oh, mais mes parents, un de mes parents regarde un film pornographique.
Margot Fried de Filiosa.
C'est sûr, il y a plusieurs choses qui influencent, mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui en France, 22% des adolescents ont déjà tenté de reproduire une scène ou une pratique vue dans un film pornographique. Donc ils ont beau dire que oui, ils savent que c'est pas la réalité, parce que dans mes interventions, c'est ça qu'ils disent. Bien sûr, madame, on s'en rend compte, tout ça. Sauf qu'on peut pas se rendre compte de à quel point ça impacte. Et que du coup, bien sûr, on pense que c'est ça que les autres veulent. Et vous parlez de la pression des pères, de tout ça. Bien sûr, bah du coup, on se dit que c'est ça qu'il faut faire, que les autres veulent. Et ça réenchérit. Et du coup, on essaye de faire pareil quand même.
J'aimerais juste citer un chiffre. Nous vivons dans une société où la pornographie est très prégnante. Le site Pornhub a publié des chiffres l'année dernière avec un taux de visite très élevé, 92 millions de visites par jour. C'est l'équivalent, 92 millions, l'équivalent de la population du Canada. Et l'âge moyen des visiteurs est de 35 ans. Ça met le comblé. Donc, ces adolescents qui regarde de la pornographie, un sur deux entre 15 et 17 ans, eh ben, elle vit dans une société où la pornographie est très présente.
Mmh. Et c'est une moyenne, donc on peut imaginer qu'il y a des écarts très importants. C'est vrai que je suis d'accord sur l'idée que la pornographie n'est pas forcément la seule et unique ressource pour les jeunes pour s'informer sur la sexualité. Encore faut-il qu'ils aient d'autres ressources. Le problème, c'est que, c'est tout à fait respectable, les parents peuvent avoir du mal à parler de sexualité à leurs enfants. On pense toujours que c'est trop tôt, donc on attend. Et puis à un moment, on se rend compte que c'est trop tard parce que les enfants se sont débrouillés par eux-mêmes, ils sont devenus adolescents et on se dit on va pas les choquer en leur en parlant aujourd'hui. On a souvent peur de devoir parler de sa propre sexualité quand on est parent et quand on aborde le sujet avec ses enfants. Donc,
quelles sont les ressources à disposition des adolescents? Parce que j'ai lu la circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je crois qu'il y a trois cours par an. Trois cours par an au collège et au lycée, ce qui est très peu. Voilà, quelles sont les ressources? Alors, il y a le fil santé jeune notamment. Exactement. Vous avez travaillé au sein de cette structure, mais il y a très peu de d'interlocuteurs.
Il en existe. Il y a des centres de planification, par exemple, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui sont des lieux tout à fait accessibles, gratuits pour les adolescents, dans lesquels on peut avoir de l'information transmise par des professionnels qui ont l'habitude. Il y a des livres. Moi, je conseille toujours de faire de l'éducation à la sexualité dans les toilettes. Vous pouvez mettre au fur et à mesure que l'enfant va grandir, se développer, un certain nombre d'ouvrages destinés aux enfants.
Vos ouvrages. Honnêtement, merci. Je les ai compulsés, La sexualité de vos ados, Samuel Comblé, et Sexpérience, Isabelle Filiosa et Margot Fritz Filiosa. Et c'est vrai, en plus, votre livre, Isabelle et Margot, est interdit aux moins de 13 ans, parce qu'il y a quand même un langage parfois assez cru. Mais c'est vrai que ce sont des ressources pédagogiques passionnantes.
Mais on a cherché à mettre beaucoup de dessins, à faire que ce soit ludique, coloré, qu'on ait envie d'y aller autant que sur les images. Nous sommes dans une société visuelle et donc il y a vraiment besoin de visuels.
C'est soft,
de visuels qui soient, de visuels qui soient vraiment représentatifs de ce qui permettent de s'identifier, parce que trop souvent les schémas qu'on a, qu'on reçoit dans les livres, ne sont pas tout à fait. D'abord, ils sont pas exacts anatomiquement, et ensuite, ce n'est qu'une anatomie un peu froide, et on ne connaît pas toujours le fonctionnement, savoir que finalement, le sexe d'une femme va aussi vivre des érections. Eh bien, ça, c'est très rarement dit. Et donc, on a vraiment besoin, pour respecter son corps, on a besoin de connaître son corps et de savoir. Faire copain-copain avec, savoir le maîtriser, savoir identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, une petite ressource. Il y a un très bon podcast de Claire Richard qui s'appelle Les Chemins de Désir, qui a été produit par Arte Radio. C'est l'histoire d'une jeune fille qui raconte, en fait, depuis son enfance jusqu'à son adolescence, justement, sa pratique de la pornographie. Et ça se termine sur une piste intéressante. Peut-être vous poser la question. Ça se termine sur l'idée que, ce qui aujourd'hui constitue sa pratique pornographique, c'est le porno audio. C'est-à-dire la possibilité, en fait, d'avoir des récits, des histoires érotiques, voire pornographiques, avec une grande crudité, mais sans images.
Ça met le compte. Et l'avantage, c'est que ça invite à la rêverie et au développement des fantasmes par soi-même et non pas par des images imposées, effectivement.
Merci beaucoup à François Cros de l'IFOP d'être intervenu ce matin. Alors, quelle est votre ordonnance philosophique, mon cher Thibaut de Saint-Maurice?
Eh bien, Ali, une réflexion
je vous laisse tranquillement retrouver votre texte, mon cher Thibaut de Saint-Maurice.
Sur les symptômes, d'abord, on l'a dit, la pornographie, ça heurte la sensibilité, ça induit en erreur, ça peut complexer donc les uns et les autres. Vous savez, sur la taille d'eux, la forme d'eux, la manière d'eux, et puis s'il faut ou pas faire ceci ou cela. Voilà, le porno affecte les comportements, les représentations et donc les relations, comme on a pu le dire, mais... Pourquoi, au fond? Alors parce que je crois que le virus de cette pornographie s'attaque en fait à notre capacité à désirer. La première violence du porno, c'est la violence qui est faite à notre désir sommé de se décharger aussi bien chez les acteurs que chez les spectateurs, sans aucune frustration. Et comme le remarque la philosophe Michela Marzano dans son livre intitulé justement « La pornographie ou l'épuisement du désir », et ben comme le titre le dit, le porno, pour elle, épuise le désir au double sens où elle fatigue notre désir et où elle l'élimine finalement. Dans le porno, on ne simule pas et on jouit à tous les coups. Autrement dit, le désir marque à chaque fois.
Alors comment traite-t-on un désir malade et épuisé, Thibault ?
Eh bien, on le traite en le renforçant. Je vous propose un traitement à commencer assez tôt finalement avec nos enfants, puisque l'exposition à la pornographie, elle commence de plus en plus tôt, et un traitement à prendre régulièrement sur le long terme, un traitement de fond en quelque sorte, dont les effets ne seront peut-être pas immédiats, mais dont ils seront, je crois, durables et solides. Alors le but de ce traitement, c'est de renforcer le désir pour l'aider à résister à la séduction de l'épuisement pornographique. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien... En deux temps. D'abord, on va apprendre à notre désir à supporter la frustration, à supporter précisément la possibilité de sa limitation. En fait, apprendre que la jouissance n'est pas possible à tous les coups, ou que tous les désirs n'ont pas vocation à être satisfaits, que c'est pas possible et pas souhaitable. Michela Marzano, toujours, donc dans son bouquin, le remarque, c'est ce qui distingue le porno de l'érotisme. Là où le porno épuise le désir, l'érotisme l'augmente et le stimule. On peut donc soigner le porno par l'érotisme, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la jouissance assurée du porno, on peut la soigner par un désir qui se retient pour mieux se tendre. On peut commencer avec des enfants assez jeunes, je crois. Alors attendez, je dis pas en train de
attention
parler d'érotisme directement avec nos enfants, mais en fait on peut leur parler de leur désir à eux, vous savez, de leur désir de leur vie d'enfant, désir d'avoir tel ou tel jouet, désir de faire telle ou telle activité, l'attente par exemple de l'anniversaire du copain ou de la copine en fin de semaine. Tout ça parle du désir et on peut engager cette discussion sur le désir avec eux à cette occasion. Le désir désirant, ça se muscle dès l'enfance, et puis c'est un ressort essentiel de l'éducation. Deuxième phase du traitement, retrouvons le plaisir de désirer, et cette fois-ci c'est ce que le philosophe Rousseau, hein, notre ami Jean-Jacques, c'est lui qui s'y colle, et qui nous rappelle que ça fait du bien de désirer, que c'est même le meilleur moyen d'être heureux, parce que ça nous évite la déception de cette triste chair du réel, qui ne peut être rien d'autre que ce qu'il est. Alors que tant que je désire, mon imagination ne connaît pas de limite. Alors voilà, hein, l'ordonnance est claire, musclons notre désir en lui apprenant à s'entretenir, à se conserver, à s'imaginer, à se faire des films, à s'exciter, vous savez, d'un regard, d'un port de tête, d'un corps qui danse, d'une métaphore, d'une mélodie, d'un lever de soleil ou, comme Baudelaire, d'une simple passante qu'on ne reverra jamais. Et avec ces désirs tout musclés, vous verrez, on tombe aussi plus facilement amoureux.
La chronique de Thibaut de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, comment parler de sexualité aux adolescents à l'ère de la pornographie en ligne? 01 45 24 7000.
Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts. Je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Alex Baupin interprétait Pas plus le jour que la nuit.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42, comment parler de sexualité aux adolescents à l'ère de la pornographie en ligne? 01 45 24 7000, une émission en partenariat avec la soirée continue diffusée dès 21h ce soir sur France 2. Avec nous au téléphone Stéphanie, bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour Stéphanie, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour?
Alors, moi j'appelais pour raconter un petit peu mon histoire personnelle avec mon beau-fils à ce sujet. C'était un jeune, on va dire pré-ado, jeune ado, avec qui on n'en parlait pas du tout. Moi, j'insistais un peu auprès de son père pour qu'il ouvre un peu la conversation sur ce sujet, parce que on sait qu'ils ont accès justement, que ce soit au collège ou avec les copains, etc., à des films pornographiques ou des images pornographiques, et on n'en parlait pas du tout jusqu'au jour où, quand il avait 12 ans. En fait, il s'est fait casser la figure par un homme, parce qu'il allait en fait prendre des photos sous la douche, dans les douches adjacentes, vous savez, les campings, etc. En passant le téléphone sous la porte et tout, il allait prendre des photos des hommes, et ça a forcément un peu ouvert la conversation. On s'est demandé mais pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris d'aller faire ça. Et là, il a admis le fait que il avait un sentiment d'infériorité, parce qu'il voyait des images dans les films et avec ses copains, et qu'il se disait mais moi je suis mal foutu, en fait je suis pas du tout à la hauteur, je suis pas du tout formé comme ces hommes que je vois, c'est pas normal, comment ça se fait, je suis difforme, etc. Et au final, ça a un peu ouvert la conversation, enfin surtout lui et moi, du coup on s'est mis à en parler, parce que il a fallu que je lui fasse comprendre que c'était pas la réalité, qu'il était formé tout à fait normalement pour un enfant de 12 ans. Mais c'était un gros complexe qu'il avait, et au final, ça faisait un moment que ça commençait à bouillir en lui, et c'est pour ça qu'il a préféré aller chercher des réponses ailleurs qui n'étaient pas ni les bonnes réponses, ni la bonne manière d'aller les chercher. Et je pense que ça lui a vraiment pas fait du mal de pas en parler à temps.
Réflexion très intéressante de Stéphanie. Samuel Comblé, je rappelle que vous êtes psychologue.
Oui, ça confirme un peu ce qu'on se dit depuis le début de l'émission. Effectivement, il y a une curiosité autour de la compréhension du fonctionnement de son corps, de la sexualité qui va être celle des adolescents plus tard. Et c'est vrai que on essaie de trouver des sources d'informations là où on peut les trouver.
Sur la question de la normalité, ce garçon de 12 ans qui est confronté à des images qui lui montrent des sexes surdimensionnés qui n'ont peu de rapport avec la réalité.
C'est la préoccupation majeure de l'adolescence, c'est de savoir est-ce que je vais avoir un corps qui, au final, à la fin de ma puberté, va être un corps désirable. Est-ce que je vais me satisfaire de ce que je vais devenir. Et donc, il est bien normal de se questionner et d'aller trouver des réponses à ces questions.
Margot Fried, Filiosa, je rappelle que vous êtes coach en relations intimes et sexuelles. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui sont confrontés à ce genre d'interrogation de la part de leurs préadolescents ou adolescents?
Déjà, on leur questionne sur les images qu'ils ont vues, qu'est-ce que ça leur fait, et puis on rappelle un peu à la normalité, parce qu'aujourd'hui, juste, on parle des garçons là, mais il faut aussi parler des filles. Par exemple, les petites lèvres qui, dans la pornographie, il y a beaucoup, beaucoup de labiaplastie, ça veut dire que...
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire justement que ces petites lèvres ont été chirurgicalement retirées, coupées, pour pouvoir permettre à la caméra seulement de pouvoir mieux voir l'intromission. Et du coup, c'est vraiment... C'est même pas esthétique pour que ça soit plus joli, c'est juste pour avoir une image plus directe. Mais du coup, on ne se rend pas compte que 50% des femmes ont des petites lèvres qui dépassent largement des grandes lèvres. 20% des femmes ont des petites lèvres qui sont plus petites que les grandes lèvres et 30% des femmes qui sont de même taille. Sauf qu'aujourd'hui, bah, quasiment partout dans la pornographie, c'est soit des femmes qui sont choisies qui ont des petites lèvres, soit qui ont subi cette opération chirurgicale et qui n'est pas la seule dans la pornographie. Mais du coup, c'est une des chirurgies qui est en vogue chez les adolescentes parce que les adolescentes se complexent en disant « c'est moche, on va me dégoûter, ça je vais être dégoûtante, c'est pas possible » et qui demandent cette opération-là.
Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir appelé ce matin. Bienvenue Philippe.
Oui, bonjour à vous.
Alors, quelle est votre réflexion ce matin?
Bah écoutez, par rapport à tout ce qui se dit là depuis quelques instants, moi je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs en place, ou plus précisément les personnes qui sont responsables de la surveillance de ce qu'ils diffusent, pourquoi il n'y a pas un accès beaucoup plus subtil par rapport à ces vidéos les plus hard pour la population, envers la population des plus jeunes.
Alors, pour aller dans votre sens, Philippe, le professeur Michel Reynaud, qui est psychologue et addictologue, eh bien, milite pour une interdiction effective de la pornographie avant 18 ans. C'est une revendication du fonds Action Addiction qu'il préside. Qu'en pensez-vous, Yael Amselem Mengi, vous qui êtes sociologue spécialisé dans la jeunesse, sur cette éventuelle interdiction?
L'interdiction, elle a jamais permis vraiment... Elle sert tout à être contournée, en fait. Je pense que la question de l'accès à la pornographie, faut pas oublier, enfin là on est vachement sur un ton très dramatique de ce que c'est la pornographie, c'est aussi du plaisir, et faut pas oublier qu'il y a des trois quarts des jeunes et des gens qui vont consulter des contenus pornographiques qui vont pour du plaisir. Sur l'accès à 18 ans ou à moins de 18 ans, de toute façon, normalement, la loi, elle fait que les films sont autorisés à partir de 18 ans. Il y a les petits logos et tout ça, mais bon, ça permet pas pour autant de vraiment filtrer. Les Anglais, récemment, ont essayé de filtrer les accès, les contenus violents et tout ça, ça marche pas. Enfin, tout le monde aujourd'hui sait comment contourner les barrières d'Internet, donc il vaut mieux accompagner les pratiques plutôt que réprimer les pratiques qui n'ont pas de vocation vraiment effective, quoi.
Ça met le
Après,
comble.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que via les accès à Internet, les jeunes, ils vont oui, effectivement, regarder de la pornographie dans les sources et ressources d'informations sur la sexualité, mais il y a aussi beaucoup les youtubeurs qui sont mobilisés, qui font des vidéos, qui font des vidéos à contenu d'expérience et à contenu d'information. Il y en a d'ailleurs plein qui sont mobilisés et sollicités par les pouvoirs publics pour aussi passer des messages de prévention, et ça marche plutôt bien.
Ça met le comblé. Mais c'est vrai que c'est un vieux problème de savoir comment on peut filtrer. Le souci de la pornographie, c'est que c'est pas interdit. C'est interdit avant 18 ans. C'est pas illégal. Donc, rendre impossible l'accès pour les mineurs, ce serait tout simplement supprimer Internet. Et ça, c'est aussi évidemment impossible. À l'association e-enfance, nous, on travaille avec les services du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. On ne peut pas dire que le gouvernement ne se soucie pas du problème. Ça fait même quelques mois qu'on travaille sur ce sujet. Il y a eu un certain nombre de groupes de travail qui sont mis en place. Les choses avancent petit à petit. On pourrait regretter que ça n'avance pas plus vite, mais les choses sont travaillées au niveau du gouvernement.
Merci beaucoup Philippe pour votre question. Il y a une question qui revient beaucoup ce matin, ce sont les effets de la pornographie sur le cerveau des adolescents, sur le développement cérébral des adolescents. Qu'est-ce qu'on sait de fiable, Samuel Comblé, Isabelle Filiosa, sur cette question-là?
Ça va surexciter le noyau accumbens, le noyau qui est impliqué dans les addictions. On ne sait pas encore beaucoup de choses sur les impacts à long terme. Les études commencent tout juste à être menées, mais ce qu'on sait, c'est le processus par lequel on peut être addict à ce porno. Et c'est vraiment très important de réaliser que c'est un processus et c'est quelque chose que utilisent les plateformes porno. Et surtout, c'est important de ne pas culpabiliser nos ados parce qu'ils regardent Exactement. Du porno. Ils sont comme piégés par leur cerveau aussi.
Ce que les enquêtes montrent aussi, c'est que plus on informe tôt les enfants sur la sexualité, sur ce qui les attend, etc., moins le rapport sexuel va avoir lieu précocement. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'être satisfaits au niveau de leur curiosité, et s'ils ne le sont pas par des informations claires et précises, eh bien ils vont rentrer, je dirais, dans la pratique directement. Or, on sait qu'avoir des rapports sexuels trop tôt n'est pas forcément quelque chose de satisfaisant et d'épanouissant. Et donc, il est important vraiment d'en parler très tôt.
Complètement, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est notre message d'ailleurs avec Isabelle dans notre livre Sexpérience, que plutôt combattre les violences, les images, tout ça, on a besoin de prendre la question de l'autre sens et comment est-ce qu'on soutient l'épanouissement.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Qu'est-ce que c'est bon, Iggy Pop interprété James Bond, concert privé samedi 12 octobre depuis la Gaîté Lyrique et un concert diffusé à 21h et présenté par notre camarade Mishka Sayas.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h53, comment parler de sexualité aux adolescents à l'heure de la pornographie en ligne. Isabelle Filiosa, je rappelle que vous êtes psychothérapeute. Beaucoup de questions ce matin sur la masturbation et la pornographie comme support à la masturbation.
Dans notre livre, on a tenté de montrer aux adolescents comment ils peuvent découvrir davantage de plaisir en écoutant leur corps, en respectant en écoutant le chemin à l'intérieur, en le testant, en l'explorant, et donc en se masturbant sans forcément recourir à la pornographie. L'impact de la pornographie...
C'est devenu un réflexe?
C'est-à-dire que c'est facile, et du coup, hop, on y accède, ça donne de l'excitation tout de suite, ça suscite un désir physique immédiat, mais finalement, eh bien, ça fait une habituation qui fait qu'on a toujours besoin de plus d'excitation.
C'est la fameuse habituation hédonique.
Exactement, on va développer davantage de plaisir beaucoup plus profond en explorant davantage son corps, en prenant le temps de la douceur, de l'écoute, l'écoute de soi, de l'écoute de son cœur, de l'écoute de tout ce qui se passe, et puis écouter aussi dans la relation ensuite son partenaire, écouter son propre corps et celui de l'autre.
Samuel Comblet, je rappelle que vous êtes psychologue.
Oui, et puis ce qu'il faut apprendre aussi aux enfants, c'est que la pornographie, c'est un spectacle qui est destiné aux adultes. Et il faut vraiment voir ces images comme ce qu'elles sont véritablement. À l'association e-enfance, nous, on apprend justement aux enfants, dès le plus jeune âge, dès le CE2, on va dans les écoles du CE2 à la terminale, expliquer comment avoir accès à ces images, comment les regarder. Alors, on ne parle pas de pornographie, je vous rassure, dès le CE2, mais on parle d'images inadaptées. Et les enfants, on s'en rend compte, quand on commence à leur parler d'images inadaptés, c'est eux qui spontanément nous parlent de pornographie. On a aussi un service téléphonique qui s'appelle Net Écoute. Je vais citer le numéro 0800 203 x 0, 0800 203 x 0, sur lequel les parents, les enfants, les adolescents peuvent nous appeler quand ils ont des questions autour justement des usages d'Internet. C'est un numéro qui est gratuit, qui est ouvert toute la semaine et le samedi également de 9h à 18h. Et donc, à l'association Oui Enfance, on protège depuis 15 ans les mineurs sur Internet.
Anne-Claire, on vous retrouve.
Oui.
Alors, quel est votre témoignage?
Alors, j'avais 14 ans et en fait, mon père avait une grande bibliothèque et j'aimais beaucoup lire. Et un jour, je tombe sur Emmanuel.
Ah. Et alors?
Et alors, ben, j'ai commencé à lire. Donc, j'étais très naïve. Hein. Et puis, au bout d'un moment, il y a la scène dans l'avion où Emmanuel se fait effeuiller par un voisin entreprenant. Et là, j'ai senti le désir monter en moi et je ne savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Parce que j'avais jamais connu ça et c'était vraiment très, très agréable et tout ça. Donc, j'ai eu ma première jouissance grâce à
elle. Bon, vive la lecture, voilà. Et vive le podcast audio pour réhabiliter le désir. En quelques secondes, comment rassurer les parents, comment doivent-ils parler de pornographie sans être intrusifs et ni moralisateurs? Yael Amselem Mengi, il nous reste une poignée de secondes.
En tout cas, c'est de prendre conscience que la sexualité des jeunes, elle existe, et c'est pas si on n'en parle pas qu'on la légitimera. Et en fait, ce qu'on voit bien dans toutes les enquêtes, c'est partout où la sexualité est possible est rendu discutable, les jeunes vont trouver de la ressource, même hors de la famille, mais ils trouveront de la ressource. Partout, on va interdire et on va réprimer l'activité sexuelle, la discussion sur la sexualité et tout ça. Et plus ça sera compliqué pour eux de trouver des ressources parce que leur discours sera pas légitime, parce que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu sera pas légitime, et donc ça sera secret, interdit, et donc beaucoup plus compliqué à gérer.
Ça met le comble.
Donc autant que possible, faut élargir les sources, y compris en dehors de la famille. Et la famille n'est pas le seul endroit où les jeunes s'épanouissent. Et puis il y a les adultes autour de la famille. Il y a beaucoup de monde qui œuvre dans la
famille. Ça met le comble pour terminer.
Une façon d'aborder le sujet aussi, c'est de peut-être poser des questions avant de se positionner en tant que sachant adulte qui va transmettre l'information.
Merci à tous. Les parents et les adolescents peuvent lire avec profit La sexualité de vos ados, de Samuel Comblé chez Solar. S'expérience d'Isabelle Filiosa et Margot Fried Filiosa. C'est publié chez Robert Laffont. La journée spéciale continue ce soir à 19h dans le téléphone sonne avec Fabienne Sintès qui donnera la parole à des adolescents. Soirée spéciale sur France 2 à partir de 21h avec le téléfilm Connexion Intime, puis le documentaire Pornographie, un jeu d'enfant à 22h45. Demain, nous recevons l'auteur danois Meg Viking qui nous dira comment se créer de beaux souvenirs en vivant pleinement l'instant présent. À suivre, Nagui et sa bande originale.